Robinson Crusoe, adaptation d'après Daniel Defoe, partie 2. Mon nouveau patron, ou plutôt mon maître, m'ayant emmené avec lui dans sa maison, j'espérais aussi qu'il m'emmènerait avec lui lorsqu'il irait en mer, que sa destinée serait, tôt ou tard, d'être pris par un vaisseau de guerre espagnol ou portugais, et que de cette manière, je recouvrerais ma liberté. Cette espérance s'évanouit bientôt, car lorsqu'il s'embarqua, il me laissa à terre, pour soigner son petit jardin, et faire les fonctions ordinaires d'un esclave dans la maison. Et quand il fut de retour, il m'ordonna de coucher dans sa cabane pour garder le vaisseau. Étant à bord, je ne pensais à autre chose qu'à m'échapper. Mais, après y avoir bien réfléchi, je ne trouvais aucun expédient qui pût satisfaire un esprit raisonnable, ni qui fût tant soit peu plausible. Je n'avais personne à qui je pusse me confier, ni qui voulût s'embarquer avec moi. Nul compagnon d'esclavage, pas un seul Anglais, Irlandais ou Écossais. 2 ans s'étaient déjà écoulés lorsque je pus m'enfuir sur une barque en précipitant mon gardien dans la mer. Je fus recueilli sur un navire portugais qui faisait route vers le Brésil. D'abord, j'offris au capitaine du vaisseau tout ce que j'avais pour lui témoigner ma reconnaissance, mais il eut la générosité de déclarer qu'il ne voulait rien recevoir de moi, qu'au contraire, tout ce que je possédais me serait exactement rendu au Brésil. « Car, dit-il, lorsque je vous ai sauvé la vie, je n'ai rien fait que ce que je serais bien aise confie pour moi-même. D'ailleurs, après vous avoir mené dans un pays aussi éloigné du vôtre qu'est le Brésil, si je venais à vous prendre tout ce que vous avez, vous mourriez dans l'indigence, et je ne ferais autre chose que de vous ôter la vie, après vous l'avoir conservée. » « Non, non, continua-t-il, monsieur l'Anglais, je veux vous transporter dans ce pays uniquement par l'intérêt que je vous porte. » Et ces choses-là vous serviront à vous procurer de la subsistance et à payer votre retour. » Peu de jours après, le capitaine eut la bonté de me recommander à un fort honnête homme, tel qu'il était lui-même, qui avait une plantation et une raffinerie. Je vécus quelque temps dans sa maison, et je m'instruisis ainsi de la matière de planter les cannes et d'en extraire le sucre. Voyant combien les planteurs vivaient commodément et avec quelle facilité ils faisaient fortune, je résolus, si je pouvais obtenir une licence, de m'établir dans ce pays, et de devenir planteur comme les autres, me proposant en même temps de chercher les moyens de tirer de Londres les fonds que j'y avais laissés, et de les employer à l'amélioration de mon établissement. En conséquence, je me pourvus d'espèces de lettres de naturalisation, en vertu desquelles j'achetais une terre qui était encore vacante, et dont je mesurais l'étendue sur celle de mon argent. Ensuite, je formais un plan pour ma plantation, et pour mon établissement, proportionnant l'un et l'autre au fonds que je comptais recevoir de Londres. J'avais un voisin portugais qui était né à Lisbonne, de parents anglais. Son nom était Wells, et ses affaires se trouvaient à peu près dans la même situation que les miennes. Je l'appelle mon voisin parce que sa plantation touchait la mienne et que nous vivions en fort bonne intelligence. Nous n'avions qu'un petit fonds, l'un et l'autre, et nous ne plantâmes, à proprement parler, que pour notre subsistance durant près de 2 années. Au bout de ce terme, nous commençâmes à faire des progrès, et notre terre prenait déjà un bon aspect, de telle sorte que la 3e année, nous plantâmes du tabac, et que nous eûmes chacun notre grande pièce de terre toute prête à recevoir des cannes l'année suivante. Le marchand de Londres, ayant converti 100 livres sterling en marchandises d'Angleterre, les envoya à Lisbonne, telles qu'elles lui avaient été demandées par le capitaine, et celui-ci me les apporta heureusement au Brésil. Il y avait, entre autres, toutes sortes d'ouvrages de fer et d'ustensiles nécessaires pour ma plantation, ce qui me fut d'un grand secours. Il les avait compris parmi les autres de son chef. Je fus transporté de joie lorsque cette cargaison arriva, et je crus ma fortune faite. Le capitaine, qui voulait bien être mon pourvoyeur et qui en remplissait dignement les fonctions, avait employé les 25 livres sterling, ce présent de ma bonne amie, à me louer un serviteur pour le terme de 6 ans. Il me l'amena, et jamais il ne voulut rien accepter de moi en considération de tant de services qu'un peu de tabac de ma récolte. Remarquez que toutes mes marchandises, étant des manufactures d'Angleterre, telles que des draps, des étoffes et autres objets peu communs, estimés et recherchés dans le pays où j'habitais, je trouvais moyen de les vendre à un prix très élevé, en sorte que je portais au quadruple la valeur de ma première cargaison, et je me vis pour lors infiniment plus avancé que mon pauvre voisin quant à ma plantation, car d'abord, j'achetais un esclave nègre et louais un serviteur européen, j'entends un autre que celui que le capitaine m'avait amené de Lisbonne. Un jour, Quelques planteurs voisins me proposèrent d'équiper un vaisseau en commun pour aller chercher des nègres sur la côte d'Afrique. Il faut avouer que ces propositions auraient été fort avantageuses pour tout homme manquant d'établissement et n'ayant pas à cultiver une plantation qui lui appartient en propre, avec de très belles espérances et la certitude d'un bon fonds. Mais pour moi, qui était déjà avancé et qui me voyais avantageusement établi, moi, qui n'avais plus qu'à continuer pendant 3 ou 4 ans sur le même pied et qu'à faire venir d'Angleterre mes autres 100 livres sterling, enfin moi qui, dans ce temps-là et avec ce supplément, n'aurais pu manquer de devenir riche de 3 ou 4 000 livres sterling, sans compter combien une telle somme aurait multiplié dans la suite, que je pensasse, dis-je, à un tel voyage, c'était la plus grande folie qu'un homme pût faire dans de pareilles conjonctures.